Les cours du Collège de France, Milieu biblique, Thomas Romer.
Bonjour, merci d'être là malgré le beau soleil dehors. Ça ne va pas durer. Voilà, aujourd'hui nous allons nous occuper du transfert de l'Arche de l'Alliance à Jérusalem. Et bah, si on a le temps aussi, des côtés sombres de la royauté de David qui commence avec l'histoire de David et Bathsheba. Donc vous vous souvenez, nous avons vu la semaine dernière la visite un peu désespérée de Saül chez la nécromancienne de Endor, qui était un peu un récit qui explique en fait l'échec et la mort de Saül. Et nous avons vu qu'ensuite on raconte la mort de Saül, de ses fils, l'élégie de David. Et à la suite de ça, on va en effet se concentrer sur David. D'abord, comme il accède à la royauté à Hébron, dans le sud d'abord, et puis à Jérusalem. Au chapitre 2 du deuxième livre de Samuel, en fait, la césure, c'est en effet la mort de Saül, qui en fait fait la fin du premier livre de Samuel. Mais je vous rappelle que les deux livres de Samuel, à l'origine, c'était un seul rouleau. Et donc cette séparation est intervenue très tardivement dans vos Bibles. Donc après la mort de Saül, David va se rendre à Hébron. Donc Hébron, vous l'avez sur la carte, qui est un peu la capitale du sud, où en effet il est consacré à nouveau roi de Juda. Donc vous vous souvenez, Samuel l'avait déjà consacré, et maintenant c'est tout le peuple, comme dit le verset 4, les hommes de Juda vinrent et ils consacrèrent David comme roi sur la maison de Juda. Mais David ne règne pas seul, donc ça on l'oublie souvent, puisqu'il y a en effet deux royaumes qui sont en concurrence, puisque Avner, donc le général de Saül, va proclamer Ishbaal roi sur Israël à Mahanaïm. Vous l'avez sur votre carte. Ishbaal est souvent appelé Ishbosheth dans le texte massorétique. Ishbosheth veut dire l'homme de la honte. Donc Pochette, ça c'est le Massorète qui a en effet changé son nom. Ishbaal, c'est homme de Baal. Donc ça indique peut-être qu'il y avait aussi une vénération de Baal à cette époque-là. Et en fait, on voit que les Massorètes n'étaient pas contents, donc ils ont donc péjoré ce nom en le mettant comme Ishbaal, comme ils l'ont fait avec d'autres fils de Saül, dont nous allons parler au fur et à mesure. Donc Avner va proclamer Ishbaal roi à Mahanaïm, donc dans le nord, sur les territoires du nord. Donc du coup, ce que vous avez ici, c'est déjà la coexistence en fait de deux rois, mais aussi de deux royaumes. Ça anticipe en fait, si vous voulez, les deux royaumes du nord et du sud. Donc c'est déjà anticipé par ce règne. Alors historiquement, on ne sait pas exactement combien de temps cette coexistence entre deux rois a duré. Selon la Bible, c'est seulement 2 ou 3 ans, mais on peut imaginer que ça a duré bien plus longtemps que ce que les auteurs bibliques veulent nous faire croire. Donc il y a deux armées, de David qui est dirigé par Joab et celui de Ishbaal qui est dirigé par Avner. Ensuite, dans les chapitres 3 et 4, on va nous raconter justement maintenant comment les concurrents de David, le roi concurrent, le général concurrent, comment ils sont en effet éliminés au fur et à mesure, tout en insistant sur le fait que David n'a aucune faute dans cette histoire. Donc c'est toujours aussi une sorte de légitimation de David. Donc on nous dit d'abord que la guerre fut longue entre la maison de Saül et la maison de David, ce qui donne en effet l'indication, comme je viens de vous le dire, que cette coexistence a duré quand même un certain nombre d'années. Alors on va d'abord parler du général Avner, qui va entrer en conflit avec Ishbaal. à cause d'une histoire un peu sombre d'une concubine de Saül qu'il s'est apparemment attribuée après sa mort. Donc peut-être Ishbaal a pensé qu'il veut devenir roi à sa place, et donc du coup Avner se désolidarise de Ishbaal, se rend auprès de David à Hébron pour se rallier à lui, mais évidemment ça ne plaît pas à Joab, qui le fait tuer. Donc reste alors encore Ishbaal. Donc il y a beaucoup de massacres, de tueries dans ces histoires. On verra ça aussi quand on parlera de l'arrivée de Salomon au pouvoir. C'est assez intrigant et sanglant aussi. Donc Ishbaal, qui reste, lui-même va être aussi tué par deux de ses officiers qui vont peut-être qui voient le vent tourner, donc Baana et Rakav, et qui vont lui couper la tête. Bon, couper la tête, on l'avait déjà vu avec l'histoire de Goliath. Donc ils amènent tout fièrement la tête de Ishbaal à David, mais qui est très mécontent et le fait tuer en leur coupant les pieds et les mains. Donc voilà, donc je vous ai déjà parlé de la mutilation dans le Proche-Orient ancien, ce qui malheureusement est une pratique pas simplement littéraire, mais aussi tout à fait courant. Quand on mutile quelqu'un, souvenez-vous, c'est très mauvais parce que on a l'idée que quelqu'un de mutilé a une vie très, très compliquée dans Sheol ou dans les enfers. Donc il faut y aller d'une manière intègre, et puis être mutilé, bah, c'est très, très mauvais. Mais là aussi, donc, on insiste sur le fait que David est totalement innocent par rapport à ces meurtres. Et finalement, donc, David, qui était d'abord roi de Juda, va devenir au chapitre 5 roi de toutes les tribus, d'abord à Hébron et ensuite à Jérusalem. Donc on raconte encore une fois, donc David, si vous voulez, il est au moins trois fois, d'abord par Salomon, ensuite par les tribus, par la tribu de Juda, les clans de Juda, et maintenant par les clans de tout Israël. Donc au verset 3, on parle de toutes les tribus, et au verset 3, on parle de tous les anciens. Donc c'est aussi certainement un texte un peu composite. Et ça se termine par une notice chronologique. David avait 30 ans quand il devint roi, il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna 33 ans sur Israël et Juda. Donc ça lui fait 40 ans. Je vous ai déjà parlé en fait de cette hésitation, ou disons du fait que les rédacteurs n'ont pas vraiment des idées très claires sur la durée de ces règnes, et puis ils mettent 40, vous vous souvenez, pour David et aussi pour Salomon, alors que Saül, on avait même supprimé la durée de son règne. Et donc vous vous souvenez, je vous ai montré ça, donc on avait dit qu'il règne que 2 ans et puis qu'il avait un an quand il devient roi, donc c'était un peu obscur. Voilà, donc cette notice, on devrait la trouver ailleurs, c'est peut-être pour cela, elle manque aussi dans le manuscrit de Qumran et aussi dans les anciens manuscrits latins. Après, on raconte la conquête de Jérusalem, mais ce qui est très bizarre, on raconte en quelques versets. Alors que c'est quand même Jérusalem qui devient la ville de David, on aura pu s'imaginer quelque chose d'un peu plus, qu'est-ce qu'il faut dire, triomphaliste ou plus narratif, mais on dit simplement que voilà, David s'empare de Jérusalem, qui est donc une ville présentée dans la Bible comme une ville cananéenne, en fait, une ville où habitent les Jébusites. Les Jébusites, c'est ces habitants de Jérusalem, mais dont on parle nulle part ailleurs en dehors de la Bible. Donc certains disent qu'on a inventé ces tribus pour le besoin de la cause. Mais ce que le texte veut dire, en effet, c'est une ville qui est ni benjaminite, ni judéenne, ni israélite d'une certaine manière. Et donc c'est une sorte de terrain neutre que David choisit pour devenir roi. Donc comme ça, aucune tribu est jalouse, et puis voilà, ça devient la ville de David. Sur le plan historique, à ce moment-là, Jérusalem est très petit, donc c'est un peu ce que vous avez ici. Ça correspond en fait à une agglomération autour de la colline Est, en face des monts des Oliviers. Donc c'est la cité de David aujourd'hui. Seulement ce que vous avez ici, avec peut-être ensuite ce qu'on va appeler l'esplanade du temple ou l'esplanade des mosquées. Donc une ville à cette époque tout petit. Alors on peut se dire pourquoi David ne s'est pas emparé de Ashdod, par exemple, puisqu'on raconte qu'il fait tellement de guerres contre les Philistins qu'il l'emporte, et qui est une vraie ville à l'époque. Donc pourquoi cette petite ville de Jérusalem? Parce qu'il montre sur le plan historique, ça ne correspond pas vraiment à ce que les récits bibliques mettent en scène. Et on va anticiper certaines choses de l'histoire de Salomon. Parce qu'ensuite, une fois que David a conquis Jérusalem, on raconte l'arrivée de Hiram de Tyr. Hiram de Tyr, c'est un roi phénicien qui est connu. Pourquoi ? Parce que selon l'histoire de la construction du temple en 1 roi 6 à 8, c'est lui qui aurait en effet fourni tous les bois, tous les matériaux importants pour construire le temple depuis la Phénicie. Problème aussi que le seul Hiram que nous connaissons dans les documents extra-bibliques, il date du 7e siècle. Donc là, on est ici dans l'anachronisme assez clair. Après, on a une liste des femmes et des concubines de David à Jérusalem. C'est très difficile si vous voulez faire vraiment une liste complète de tous les enfants et femmes de David, parce que selon les traditions, ça change un peu. Donc là, il y en a un certain nombre. Et donc c'est aussi une manière d'anticiper Salomon avec ses nombreuses femmes à Jérusalem. Et on finit par raconter deux victoires de David contre les Philistins, qui les victoires sont emportées, puisque, et ça fait l'opposition avec Saül, puisque David, qu'est-ce qu'il fait? Il consulte Yahvé. Et Yahvé lui dit ce qu'il faut faire. Souvenez-vous de l'histoire de la nécromancienne. Saül voulait consulter, mais ça ne marchait pas. Et avec David, ça marche. Donc c'est aussi une manière de mettre en opposition, en fait, les deux personnages. Alors, juste un petit excursus. Donc, vous le savez peut-être que l'histoire de David est aussi racontée dans les livres des chroniques. Vous connaissez le livre des chroniques? Mais en fait, l'histoire de David commence dans les chroniques seulement avec son installation à Jérusalem. On ne raconte rien avant, on ne raconte pas du tout l'opposition entre Saül et David, on ne raconte rien sur Samuel, etc. Donc tout ça, en effet, on le trouve seulement dans les livres de Samuel. C'est à partir de 2 Samuel 5 qu'on a aussi l'histoire de David dans les livres des chroniques. Et je vous ai mis ici un plan, donc je ne vais pas vous le détailler. Ce qui est important, c'est parfois c'est des récits parallèles, mais parfois il y a d'autres récits. Donc la question, c'est est-ce que les chroniques avaient d'autres sources à leur disposition, ou est-ce qu'ils font déjà un travail midrashique, c'est-à-dire qu'ils rajoutent des choses. De toute façon, on voit dans les chroniques quelque chose d'important. C'est que, et on revient sur la question, David, vous le savez, n'a pas construit le temple. Ce qui est un problème. Un roi fondateur, il se doit construire un temple pour sa divinité tutélaire ou au moins de restaurer un ancien sanctuaire. Et David ne le fait pas. Là, il y a peut-être aussi un peu des souvenirs historiques parce que quand on cherche l'historicité, il faut toujours un peu s'intéresser à des choses qui bloquent un tout petit peu. Parce que si on avait inventé totalement l'histoire de David, on aurait inventé qu'il construit le temple. Et dans les livres de chroniques, en fait, ce qu'on va voir, que David va en quelque sorte être le constructeur du temple. Parce qu'il va être son architecte, il va faire le plan, etc., qu'il va donner ensuite à son fils Salomon pour que Salomon fasse le temple comme il faut. Et donc ça, c'est certainement une réinterprétation. On retrouve aussi dans les chroniques une très grande importance qui est donnée aux Lévites, donc tribus sacerdotales, dont les livres de Samuel parlent très peu. Et certains pensent que les livres des chroniques ont été, en effet, rédigé par les milieux lévites qui voulaient en fait légitimer leur importance dans le culte du deuxième temple et aussi en effet transformer les rois en liturges, parce que dans les chroniques, contrairement au livre de Samuel et de rois, les rois ils chantent, ils prient, ils font beaucoup de sacrifices, ce qui est beaucoup moins souligné dans l'histoire de Samuel roi. Voilà, une fois David installé à Jérusalem, quelle est sa première action ? L'arche, exactement, quelqu'un l'a dit. C'est justement ça. Il fait venir l'arche de... Où est-ce qu'elle était, l'arche ? Alors, l'arche était quelque part... Et David l'a fait venir. En fait, ça reprend un fil narratif qui se termine en 2 Samuel 7. Je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui avaient suivi il y a quelques ans quand on a fait le cours sur l'Arche de l'Alliance. En 2 Samuel 7, donc vous vous souvenez de l'histoire, l'Arche était d'abord à Silo, à un sanctuaire du Nord. Elle a été capturée par les Philistins. Elle a séjourné en terre philistine et ça s'est très mal passé pour les Philistins parce que l'arche a provoqué toutes sortes de plaies qui rappellent un peu les plaies d'Égypte. Et ensuite, donc, l'arche était revenue sur le territoire judéen ou benjaminite, parce que qui est Yerim et Benjamin. Donc, en passant d'abord par Beth-Shemesh, mais à Beth-Shemesh, elle n'a pas pu rester non plus parce que qu'est-ce qui s'est passé à Beth-Shemesh? Ah, les furoncles, c'était avant. Les furoncles, ou on ne sait pas trop, les hémorroïdes, etc., ça, c'était chez les Philistins. Alors, à Beth-Shemesh, en fait, il y avait des gens qui étaient trop curieux, qui ont ouvert l'arche. Oh là là, voilà, c'est comme dans Indiana Jones, ils ont ouvert l'arche, et puis ça s'est mal passé, donc voilà, ils étaient tous tués. Et donc, du coup, les habitants de Beth-Shemesh ont, en effet, renvoyé l'arche à Kiryat Yearim, où, en effet, elle a reçu une sorte de sanctuaire, hein, puisqu'on dit qu'il l'a porté dans la maison, on peut dire aussi le sanctuaire, d'Avinadav, sur la colline, et ils avaient consacré son fils Éléazar comme... prêtre, en fait, pour garder l'arche. Si quelqu'un est consacré pour garder l'arche, donc, en effet, c'était un petit sanctuaire ou un grand sanctuaire pour l'arche. Et ensuite, quand on a rajouté 2 Samuel 6, on a insisté sur le fait que l'arche était déjà 20 ans, au moins, à Kiryat Yearim, et que ce n'était pas, en fait, son emplacement définitif. Peut-être dans l'histoire ancienne, c'était l'emplacement définitif de l'arche. Hein. Donc je vous rappelle Kiryat Yearim, qui se trouve à côté de Abu Ghosh, à une quinzaine de kilomètres de Jérusalem, où l'arche a séjourné. Donc aujourd'hui, vous voyez la colline, et il y a une église qui s'appelle justement Notre-Dame de l'Arche de l'Alliance. Donc il y a le souvenir qui est resté, et si vous allez dans l'église... Vous voyez à l'intérieur de l'église des mosaïques d'une église bien plus ancienne de l'époque byzantine, peut-être 5e, 6e siècle, qui se trouve déjà à cet endroit. Et donc, on peut imaginer que cette église byzantine avait été construite, comme on le faisait souvent avec les premières églises, on les construisait où ? Ben, autour ou sur des sanctuaires qui existaient déjà, qu'on voulait récupérer, revendiquer. Hein. Et lors des fouilles que nous avons pu faire à Kiryat Yearim, on a en effet trouvé des murs très importants de soubassement, en fait, pour une plateforme sur lequel, en effet, on a pu imaginer, mais comme il y a l'église à un monastère, on ne peut pas tellement faire des fouilles sauvages, disons sauvages, des fouilles invasives, donc on peut imaginer que, en effet, ce mur tenait ce sanctuaire, mur qu'on peut dater aux alentours du 900 à 700, et elle est peut-être, en effet, en lien avec la construction d'un sanctuaire pour l'arche, peut-être fait par un roi du Nord, Jéroboam. Et le premier récit de l'arche avait été peut-être écrit pour légitimer l'arrivée de l'arche, donc en fait le déplacement de l'arche de Silo à Kiryat Yearim. Kiryat Yearim, si vous regardez encore une fois la carte, donc vous voyez, c'est très proche de Jérusalem, et si on est sur la colline, on va à Jérusalem, aujourd'hui encore. Donc un roi qui, en fait, veut contrôler les routes vers Jérusalem, il a intérêt de mettre un sanctuaire, en effet, là-bas, qui est aussi, du coup, une forteresse. Donc, ce qu'il va raconter maintenant de Samuel 6, c'est comment cette arche arrive de Kiryat Yearim à Jérusalem. Alors là aussi, la question qu'on peut se poser, est-ce que ça s'est passé à l'époque de David ou est-ce que ça s'est passé plus tard? Probablement plus tard. Mais on l'attribue en fait à David, puisqu'après on va dire que Salomon a fait entrer l'arche dans le temple. On verra ça un peu plus tard. Donc il y a en fait trois parties de ce récit que je vais vous présenter tout de suite. Donc il y a un récit qui rappelle d'autres récits sur l'arche. L'arche est dangereuse. Donc je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. Donc il y a un premier récit sur la dangerosité de l'arche, un récit liturgique comment l'arche arrive à Jérusalem, avec, ça vous connaissez, la scène David qui danse devant l'arche. Et en troisième scène, la femme de David, fille de Saül, qui se moque en fait de son mari et qui du coup reste ou devient stérile. Donc il y a en fait trois thèmes qui sont liés dans ce récit, qui est beaucoup plus élaboré dans les chroniques. Donc je ne vais pas non plus vous présenter tous les détails, mais il y a toute une série de textes dans le livre des chroniques qui manquent ou qui ne sont pas attestés en 2 Samuel 6, notamment des psaumes, des chroniques quand l'arche arrive à Jérusalem, on va se mettre à chanter des psaumes qui sont repris en fait du psautier, on va donner des listes des lévites qui s'occupent de l'arche, etc. Donc on voit en effet pour le chroniste, c'est un texte très très important qui en fait court sur quatre chapitres, contrairement à 2 Samuel 6 où c'est ramassé dans un seul chapitre. Donc je vais vous lire le début. David rassembla encore la troupe d'élite en Israël, 30 000 hommes, donc 30 000 hommes pour chercher l'arche, ça fait beaucoup quand même. Dans la Septante, on a même 70 000 personnes. Et David se leva, alla ainsi que toute la troupe qui est avec lui, à Baala, qui est à Kiryat Yearim, appartenant à Juda. C'est probablement comme ça qu'il faut restituer le début du récit, en suivant le manuscrit de Qumran et aussi le chronique. Donc il va à Baala, c'est apparemment le nom de la colline, et il prend l'arche. Dans le texte massorétique, on dit les seigneurs, les Baalé Yehuda, les seigneurs de Juda. Mais je pense que le texte Qumran est plus ancien. Donc il va là-bas pour faire monter de l'arche de Dieu sur laquelle est invoqué le nom qui est redoublé, c'est peut-être pas nécessaire, de Yahvé Tsevaot qui siège sur les chérubins. Ça, c'est aussi un titre qui n'est pas attesté dans le texte de Qumran. Ils transportèrent l'arche de Dieu sur un chariot neuf et l'emportèrent de la maison d'Avinadav qui se trouve sur la colline, Uzza et Ahio. La Septante a compris Ahio comme signifiant ses frères. Les fils d'Avinadav conduisaient les chariots neufs. Ça manque dans la Septante. Ils l'emportaient de la maison d'Avinadav, qui se trouve sur la colline, ça manque également dans la Septante, avec l'arche de Dieu, et Ahio marchait devant l'arche. Quant à David et toute la maison, ou tous ses fils d'Israël, ils se réjouirent devant Yahvé de toute leur force, avec tous les bois de cypres, des chants, des lyres, des harpes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Donc il y a tout un orchestre qui est mis en place. Ils viennent à l'ère de Nakhon. Uzza étendit la main vers l'arche de Dieu. Alors la Septante ajoute « pour la tenir » et il a saisi. En effet, le bœuf avait glissé. Donc qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut prévenir que l'arche tombe du char. Hein ? Et la colère de Yahvé s'enflamma contre Uzza, la divinité le frappa là-bas à cause de l'insolence, et il mourait là, près de l'arche de Dieu. Et David s'échauffa, ou s'énerva. Donc ça, évidemment, ça n'a pas plu à la Septante qui a dit « David, pris courage », mais David est fâché, parce que Yahvé avait opéré une brèche vis-à-vis d'Uzza, et on appela le lieu, ou il appela le lieu « Peretz Uzza », la brèche, tout ça, jusqu'à ce jour. Et David craignait Yahvé en ce jour et il dit « Comment l'arche de Yahvé viendra-t-il vers moi ?» Et David ne voulait pas la transférer vers lui l'arche, vers la ville de David, et il la détourna dans la maison d'Ovet-Edom, le Gathite, donc un philistin. Et l'arche de Yahvé demeura dans la maison d'Ovet-Edom, le Gathite, 3 mois, et Yahvé bénit Ovet-Edom et toute sa maison. On informa le roi, Yahvé a béni la maison d'Ovet-Edom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu dans ma maison. Et David a dit, selon la Septante, je vais la ramener, la bénédiction dans ma maison. Et David partit, il fait monter l'arche de la maison d'Ovet-Edom dans la ville de David, dans la joie. Donc ça, c'est la première partie. Donc on part pour chercher l'arche. La version des chroniques a toute une introduction qu'on ne trouve pas dans 2 Samuel 6, où David, en effet, va tenir conseil avec les chefs des mille de centaines, et il dit surtout « Nous ferons venir vers nous l'arche de notre Dieu, car nous ne sommes pas occupés d'elle au temps de Saül. » Donc là aussi, l'idée que Saül n'a rien fait pour l'arche, donc nous allons, en effet, la faire venir à Jérusalem, donc avec les 30 000. Vous souvenez du séminaire d'Axel Buller qui vous a parlé de l'importance des chiffres que les scribes aiment bien à mettre en place. Les 30 000, on les trouve à plusieurs reprises. Vous avez ici la liste dans les livres de Samuel. Donc Baala, qu'est-ce que c'est Baala ? C'est probablement le nom, la maîtresse peut-être, ou la déesse Baal, Baala, donc c'est peut-être à l'origine une colline qui comportait un sanctuaire dédié à une déesse, et donc c'est pour cela qu'on a changé dans le texte massorétique le Baalé Yehuda, les seigneurs de Juda. Hein. Donc maintenant on assiste sur Kiryat Yearim qui est en Juda, alors que normalement c'est en Benjamin. Et qu'est-ce que ça peut nous indiquer ? Ça peut nous indiquer, en effet, et historiquement c'est tout à fait plausible, que le roi Josias avait réussi d'annexer au moins une partie de Benjamin et l'intégrer dans le territoire de Juda. Et donc du coup, on comprend aussi l'intérêt de montrer que l'arche maintenant va de Kiryat Yearim à Jérusalem. Donc, vous savez que dans l'histoire des rois, Josias, il va détruire beaucoup de sanctuaires qui ne lui plaisent pas. Mais apparemment, l'arche, il ne la détruit pas, il l'a fait venir, parce que c'est un sanctuaire yaviste, disons, c'est un symbole, un objet yaviste important, qu'il va en effet faire entrer à Jérusalem. Et donc, maintenant, si on compare avec 1 Samuel 7, on a d'autres noms, Uzza et Ahio, qui ne sont pas mentionnés en effet, parce qu'en 1 Samuel 7, on parle de Éléazar. Est-ce que ça veut dire que c'est une autre génération ? Ça veut certainement dire que c'est un autre auteur, en effet. Et on peut se poser la question, pourquoi il y a ces changements ? Alors Uzza, ça pourrait être un autre nom pour Éléazar, parce que Uzar est construit avec la racine Aïn, Zayin, la force, hein, et Éléazar, Aïn, Zayin, Resh, le secours. Et on a d'autres exemples où, en effet, les deux racines sont utilisées pêle-mêle pour désigner la même personne. Donc un musicien Uziel, par exemple, est appelé Azarel. Hein, ou un roi de Juda qui s'appelle Azaria est aussi appelé Uza. Donc du coup, on peut imaginer que c'est une autre manière d'appeler la même personne. Ahio, ça pourrait être étymologiquement son frère ou ses frères, mais il y a aussi des attestations de noms propres dont les titulaires s'appellent Ahio, donc Yahvé et mon frère. Donc je pense qu'on veut en effet montrer que nous avons affaire à un changement au niveau du clergé de Kiryat Yearim, et c'est donc les deux qui accompagnent l'arche avec toutes sortes de musiciens. Je ne vais pas aller dans tous les détails, mais l'accompagnement musical, très important. Vous avez des indications iconographiques, textuelles. Donc là, vous avez en effet des musiciennes phéniciens. Là, on a une sorte d'objet rituel trouvé à Ashdod, en Philistie, pas trop loin. Hein, vous avez aussi cinq musiciens. Et ce qui se passe au verset 5, c'est assez comparable au psaume 150, parce que vous avez les mêmes instruments, la harpe, la lyre, le tambour, les cymbales. Donc, est-ce que ça fait allusion, en fait, à l'orchestre du premier ou du second temple ? C'est pas impossible. Hein ? Et puis arrive, en effet, l'incident. Donc, sur une aire de Nakhon qui est inconnue, que les rabbins ont identifié avec l'aire de Darona. L'aire d'Arona, c'est l'aire où David a découvert, tout à la fin du livre de Samuel, l'emplacement du temple. Hein. Mais là, Nakhon, en fait, on ne sait pas très bien où c'est. Et c'est un passe très important pour l'auteur, parce qu'il veut, en effet, faire peut-être un jeu de mots avec la racine Naka, frapper, donc l'air où il y avait à frapper, parce que c'est ça, en effet, ce qui va arriver. Donc, Uza veut empêcher l'arche de tomber, et en la touchant, il commet une faute. David ne comprend pas trop parce qu'il s'énerve, mais pourquoi est-ce qu'il commet une faute ? Alors, il voulait faire du bien, il voulait la retenir. On aura peut-être fait de même. Mais il y a cette idée qu'on ne peut pas s'approcher dans certaines circonstances du divin. Donc il y a une frontière très, très importante. Et on trouve par exemple dans le livre des Nombres, où on a des prescriptions qui concernent en effet le sanctuaire portable qui est construit en Exode et qui accompagne les Israélites selon les récits sacerdotaux lors de leur marche dans le désert. On dit à un clan lévite, les Kéatites, on la charge de l'arche, mais il est dit, ils ne toucheront pas ce qui est saint, autrement, ils mourront. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc même si Uza est peut-être sacerdotal, il y a des endroits, comme le Saint des Saints, on ne peut pas, sans préparation, aller, c'est très dangereux en fait. Et David est très en colère contre Yahvé. Après, on a dit qu'il perd du courage, ça c'est la traduction grecque. Et puis, le verset suivant, on va dire, en fait, il craignait Yahvé. Donc, on a essayé, en fait, d'enlever un peu ce qui est choquant, que David se nerve contre Yahvé. Donc, du coup, on va expliquer ce lieu en l'appelant Peretz Ussa, qui est un lieu également inconnu et non identifié. Alors, qu'est-ce qu'on peut se dire ? On peut se dire, si ce lieu existait, on a peut-être inventé le nom de Uza, justement pour donner une étymologie, pour expliquer le lieu. Mais on ne sait pas très bien où il se trouve. Hein ? Et donc, l'arche arrive dans la maison de Ovet-Edom. Donc, comme je vous ai dit, le verset 9 que vous avez ici en rouge, c'est probablement une insertion pour dire que David ne s'est pas fâché, il craint Yahvé en ce jour, et puis il dit « Comment l'arche peut-elle venir jusqu'à moi ?» Donc, manière un peu de dire les choses différemment. Et ce qui est intéressant, c'est que l'arche est entreposée dans la maison de quelqu'un de Gath. Alors Gath, vous savez, Gath c'est une ville philistine. Et quelqu'un qui vient de cette ville, qui va accueillir, c'est presque un peu ironique. Vous savez, l'arche était chez les Philistins, elle est partie, et là, avant qu'elle arrive à Jérusalem, elle se trouve de nouveau dans la maison d'un Philistin. Mais là aussi, sur le plan historique, il y a quand même... Je vous ai rappelé ça, David a des liens très forts avec les Philistins. Hein, et donc on trouve par exemple en 1 Samuel 21, lorsqu'il est en conflit avec Saül, il devient vassal des Philistins. Dans l'histoire de la révolte de son fils Absalom, il y a un Philistin, Ittaï, qui va en effet prendre parti pour David. Donc il y a des liens assez forts entre David et les Philistins. Alors le nom d'Obed-Edom est aussi assez difficile de comprendre. Littéralement, c'est serviteur de Edom. Alors on a essayé, Edom c'est la même racine que Adam, donc ce qui est rouge, rougeâtre, la terre, etc. Et donc, on a fait un rapprochement avec une déesse qu'on trouve dans un papyrus magique de Leyde, où on trouve Oudom la Rouge, qui est la femme du dieu de la peste. Mais c'est une seule mention. Par contre, on a, dans des textes puniques du 3e, 2e siècle, on a Malak Edom ou Avet Edom, comme dans la Bible. Donc là, on est déjà plus proche. Mais qu'est-ce que c'est Edom ? Knauf pense que Ovet Edom, c'est une forme abrégée de Evet, Kos, El Edom. Donc le serviteur de Kaos ou Kos, qui est la divinité édomite, si vous vous souvenez. Et donc du coup, si c'est vrai, on a un autre problème de nouveau, puisque Edom, en tant que royaume, n'est attesté qu'à partir du 8e siècle. Donc ça ne peut pas, de nouveau, c'est une autre indication que ce texte ne date pas dès l'époque de David. Et on a en effet des liens entre les cités philistines du sud et Édom au 7e et 6e siècle. Ce texte du prophète Amos, en fait, critique les philistins, des gens de Gaza, qui ont en effet livré des captifs à Édom. Donc apparemment, il y a des alliances entre les deux, donc ce qui pourrait expliquer ce nom. Dans le chroniste, Obed-Edom se fait naturaliser. Il devient non pas un philistin, mais un lévite et portier ou chanteur autour de l'arche. Bon, maintenant, il faut se poser la question... Est-ce qu'on peut identifier cette maison de Obed-Edom ? Alors, il y a une théorie qui a été proposée par Nadav Naaman de l'Université de Tel Aviv, qui a dit Obed-Edom, ça pourrait être le temple de Motsa. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du temple de Motsa ? Sinon, il faut vous y intéresser parce que c'est quelque chose de très intriguant, très intriguant. On a fait des fouilles de sauvetage parce qu'on a élargi l'autoroute de Tel Aviv à Jérusalem en 2012 et on a trouvé, un peu par hasard, un immense sanctuaire, un temple en fait, vous avez un plan ici, un temple à quelques kilomètres de Jérusalem. Du premier millénaire avant l'ère chrétienne, dont la Bible ne parle jamais. Donc là, vous avez un plan, donc Tel Motsa et le mont du Temple, c'est à même pas 10 kilomètres. Et donc ça reste jusqu'à aujourd'hui des grandes questions. Comment il faut comprendre ce sanctuaire-là ? Est-ce que c'était un sanctuaire concurrent au Temple de Jérusalem ? Parce que pour des sanctuaires un peu locaux, c'est presque trop grand et c'est trop proche de Jérusalem. Donc, on a trouvé plein d'éléments cultuels, des objets, des représentations. Donc, c'est, je pense, une des découvertes les plus importantes qu'on a pu faire en Terre Sainte dans les dernières décennies. Donc, ce temple de Motsa. Et Naaman pense que ça pourrait être une manière de mentionner ce temple parce qu'au niveau du chemin, il y a une logique. Hein, parce que là, on a Beth Shemesh, on n'a pas cela, mais Kiryat Evarim, c'est pas trop loin là, ce que vous avez Neve Ilan, un peu plus bas. Et donc, au niveau géographique, ça marche. Seulement, évidemment, Motsa et Oved Edom n'ont pas vraiment de lien chronologique, mais c'est une théorie qui demeure intéressante. À ce moment-là, maison, ce ne sera pas la maison individuelle, ce sera en effet un sanctuaire, parce que Beth et quelque chose peut être aussi le temple, le sanctuaire de telle ou telle divinité ou de telle ou telle personne. Donc, est-ce que ça aurait été un sanctuaire un peu concurrent? On l'avait d'abord mis l'arche avant finalement de décider de la mettre à Jérusalem. Donc, c'est une théorie spéculative, certes, mais qui est intéressant à poursuivre cette idée, mais autrement on n'arrive pas à localiser cet Oved Edom où en effet l'arche va produire toutes sortes de bénédictions qui vont en effet amener David à aller chercher l'arche, et ça c'est la deuxième partie, qu'il va chercher l'arche. Il arriva que lorsque ceux qui portaient l'arche eurent fait six pas, il immola un taureau, selon la chronique, sept taureaux et sept veaux gras, ou un veau gras. Quant à David, il dansa de toute sa force devant Yahvé. David était saint d'un éphod de lin. Donc éphod, vous vous souvenez, on a déjà parlé, c'est un peu le sac du prêtre où il y avait le Urim et le Thummim à l'origine. Et donc s'il a seulement un éphod, il n'est pas très couvert, en fait, David. Et c'est aussi ce que suggère le texte. Et David et toute la maison d'Israël est en train de faire monter l'arche avec jubilation au son du chauffard, du cor. Il arriva, l'arche de Yahvé était entrée dans la ville de David. Michal, la fille de Saül, est en train d'observer par la fenêtre et elle vit le roi David sautant et dansant devant Yahvé et le méprisa dans son cœur. Donc ça introduit la dernière partie. Ils apportaient l'arche de Yahvé, la placèrent dans son endroit, au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et David fit monter des holocaustes devant Yahvé, ainsi que des sacrifices de paix. Et lorsque David fait monter des holocaustes et des sacrifices de paix, il bénit le peuple au nom de Yahvé de Tsevaot. Il distribua à tout le peuple, à toute la foule d'Israël, la Septante rajoute, de Dan à Beersheba, donc du nord jusqu'au sud, aux hommes comme aux femmes, à chacun une galette de pain, un gâteau de dattes, ou du pain grillé, dit la Septante, et un gâteau de raisin, et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. Donc là, nous avons deux thèmes. D'abord, les sacrifices, qui sont peut-être aussi un ajout. Les sacrifices sont très importants aussi pour le chroniste. Donc, après six pas, on fait un premier sacrifice, donc on a 6+1. Un thème assez courant, pensez déjà au récit de création, 6 jours + 1 jour de repos, 6 pas + 1 sacrifice. Et donc, c'est David tout seul qui offre les sacrifices, il est en fait le roi, le premier des prêtres. Et là, nous observons déjà une volonté de mettre en parallèle David et Salomon, puisque David, lors de l'inauguration du temple, offrait également des sacrifices, les mêmes, des sacrifices de paix et des holocaustes, comme le fait David ici. Et ils bénissent le peuple, donc on peut en effet penser que les récits premiers de 2 Samuel 6 et 1 roi 8 sont en effet l'œuvre du même auteur, donc qui à l'époque de Josias écrit son récit. C'est ce que je pense. Donc en fait, ce récit a été écrit à l'époque de Josias pour légitimer l'entrée de l'arche à Jérusalem à cette époque-là. Elle n'était pas à Jérusalem à l'époque de David ou de Salomon. D'ailleurs, de Salomon, on raconte simplement qu'il a mis l'arche dans le temple de Jérusalem. Et ensuite, est-ce qu'on parle de l'arche ensuite ? Rien. C'est pas ce que, qu'est-ce qu'elle devient. C'est pour cela, ça je vous raconterai la semaine prochaine, on a imaginé que l'arche est partie en Éthiopie parce qu'on ne raconte rien sur l'arche. Et donc du coup, si le vrai moment historique où l'arche arrive à Jérusalem avait été l'époque de Josias, ben, c'est beaucoup plus logique parce qu'on n'avait rien à raconter et Josias c'est 50 ans avant que Jérusalem se fasse détruire par les Babyloniens. D'ailleurs, dans le livre des Chroniques, il y a un texte très bizarre en 2 Chroniques 35 où au moment de sa réforme, Josias va dire aux prêtres, aux lévites, arrêtez de trimballer l'arche sur vos épaules, mettez-le dans le temple. Ça, on ne le trouve pas dans Samuel. Donc c'est peut-être un souvenir encore qui a échappé à la censure qu'en effet, c'est à l'époque de Josias que l'arche est vraiment entrée dans le temple de Jérusalem. Et David qui danse plus ou moins nu devant l'arche. Hein. Le verbe qui est utilisé peut dire tourner en rond, tourbillonner. Est-ce qu'il y a des connotations sexuelles ? On a imaginé plein de choses. Ce n'est pas très bien de quelle arche, de quelle danse il s'agit. Hein. On pourra aussi imaginer des connotations militaires. Parce qu'au niveau de la Grèce, Sparte, on connaît des danses qu'on appelle la pyrrhique, des danses religieuses et martiales, ou la danse des corybantes, où c'est des hommes nus aussi, en armure, en fait, qui suivent le rythme des tambourins, des crores, des flûtes, des cymbales. Ça rappelle aussi un peu de Samuel VI. Donc c'est peut-être aussi une danse de ce type-là. Toujours est-il que... On insiste un peu sur la nudité de David, mais qui n'est pas ici critiquée. Elle est critiquée par Michal. Mais Michal elle-même sera critiquée ensuite. Hein. Donc souvenez-vous, il y avait l'histoire de Saül qui se mettait tout nu. Et ça, c'était mal vu. Alors David, c'est apparemment un peu différent. On va passer à la dernière partie de ce texte où, en effet... La nudité de David est critiquée par Michal. David rentra pour bénir sa maison. Michal, la fille de Saül, sortit au devant de David et lui dit « Il se fait honneur aujourd'hui, le roi d'Israël. On s'est dénudant devant les servantes de ses esclaves, comme le fera un homme de rien. » La Septantie, plutôt un danseur, donc pour atténuer un peu. David dit à Michal « C'est devant Yahvé que je danserai, qui m'a choisi et qui m'a préféré à ton père. » et à toute sa maison pour m'instituer comme chef du peuple, sur le peuple de Yahvé, sur Israël. C'est devant Yahvé que je me réjouirai. Je m'abaisserai encore plus et je m'humilierai à mes propres yeux, la Septante dit à tes propres yeux, et près de ces servantes dont tu parles, auprès d'elles, je serai honoré. Et Michal, fille de Saül, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Quoi on raconte cette histoire ? On peut se poser des questions. D'abord, en fait, il y a la question de la nudité dont je vous ai déjà parlé, qui apparemment ne pose pas toujours problème. Parce que si vous regardez cette statue-là, vous avez un prêtre nu. Hein, vous avez un prêtre nu. Bon, ça date du 4e millénaire. Et on a dans les textes, par contre, les textes sacerdotaux de l'époque perse, on a cette idée, en effet, que les prêtres, il ne faut pas qu'on puisse montrer, qu'on puisse voir, en fait, leur nudité. Hein. Donc, Aaron et ses fils vont se faire des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils porteront, quand ils entreront dans la tente de la rencontre, ainsi ils ne se chargeront pas d'une faute et ils ne mourront pas. Donc, à l'époque perse, ça devient quelque chose qui est interdit, donc, de se promener nu. Et cette idée, elle est déjà un peu présupposée ici à toute une discussion sur cette nudité de David. Donc, Michal qui regarde par la fenêtre, Ça, c'est un motif iconographique très, très répandu dans le Proche-Orient ancien. On a beaucoup de variantes de ce que vous avez ici sur ces ivoires, ce qu'on appelle souvent la femme à la fenêtre. Ce soit des déesses, ou ce soit un peu comme dans les proverbes, des femmes qui guettent un peu leur proie. Donc des prostituées ou des femmes dites légères. Donc on a déjà un peu, on met Mikal déjà dans une certaine situation. Mais ce qu'on veut surtout souligner, c'est la scission définitive entre la maison de Saül et David. Donc souvenez-vous quand même Mikal. On a entendu parler de Mikal. Souvenez, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait quand même sauvé David, vous vous souvenez, quand Saül voulait le chercher pour le tuer. Elle avait pris un téraphin, une sorte d'ancêtre qu'elle avait déguisé en David et avait permis que David s'échappe à la fenêtre. Donc là, elle était présentée de manière très positive. Et maintenant, après que David est devenu roi à Jérusalem, on va rompre tout lien entre Mikal et David, dans le sens parce que si Mikal et David avaient eu des enfants, ben ça voudrait dire en fait qu'il y avait un lien de sang entre les deux maisons. Hein? Et ça, apparemment, ça ne plaît pas au narrateur qui veut dire non. Alors David a eu des enfants, bien sûr, mais jamais avec Mikal. Donc pas avec une fille de Saül. Donc c'est pour insister sur le fait qu'il n'y a pas de lien de sang entre la maison de Saül et la maison de David. Donc ce texte voilà, va préparer d'une certaine manière la construction du temple par Salomon. L'arche est là et c'est Salomon qui va la faire entrer dans le temple au niveau de la narration. Au niveau de l'histoire, il faut plutôt situer ce texte au 7e siècle, disons la première version, parce que, comme on a vu, il y a des relectures. À l'époque de Josias, c'est probablement lui, le nouveau David, qui fait entrer l'arche à Jérusalem. Et pour expliquer maintenant pourquoi David n'a pas construit le temple, il y a ce fameux oracle de David dont, pour ceux qui ont suivi le séminaire, Yann Ruckel était venu nous parler des promesses dynastiques. Et ce texte est très important, 2 Samuel 7, où, en effet, David veut construire un temple et Dieu lui-même lui interdit de construire un temple. Donc ça, c'est la meilleure légitimation. David a voulu construire le temple, mais c'est Yahvé lui-même qui n'a pas voulu. Hein? Donc ça commence en effet d'abord par l'idée que lorsque le roi fut installé dans sa maison, là du coup dans le palais, hein, le palais et le temple sont toujours adjacents, et que Yahvé lui a accordé le repos autour face à tous ses ennemis, le roi dit au prophète Nathan, « Regarde, je suis installé dans une maison de cèdre, tandis que l'arche de Dieu est installé au milieu d'un rideau de tente. » Donc ça, c'est l'idée du départ. David a dit, c'est pas possible que moi, j'habite dans un palais et l'arche est sous un rideau. Ce rideau de tente se trouve surtout dans les textes sacerdotaux de la construction du sanctuaire. Donc c'est un texte, vous voyez, assez récent dans sa forme actuelle. Et si vous regardez les couleurs, ça reprend en fait un texte du début de la loi du Deutéronome où il est dit « Vous n'êtes pas encore entré dans le lieu de repos, Yahvé vous accordera le repos et vous serez installé en sécurité. » Donc c'est en effet une reprise de Deutéronome 12 où David dit « Maintenant toutes ces promesses sont accomplies et il faut construire la maison de Yahvé. » Et d'abord, Nathan dit au roi « Tout ce que tu as l'intention de faire, va le faire, car Yahvé est avec toi. » Donc au début, on a l'impression que tout va comme prévu. Le roi veut faire la construction du sanctuaire. Un roi qui se respecte, il est constructeur, restaurateur de sanctuaire. Donc là, vous avez l'image de Assurbanipal au British Museum. Il porte lui-même sorte de corbeille avec les pierres ou avec je ne sais pas trop quoi pour participer à la construction du temple. Et au début, c'est comme ça que les choses se sont présentées. Et c'est la première fois qu'on entend parler du prophète Nathan. On ne sait pas d'où il sort, Nathan. Nathan, c'est il a donné, donc la divinité a donné, c'est pas laquelle, peut-être Yahvé, sera Nathan Yahou, ou. Bon, alors on ne fait pas. Mais voilà, c'est le nom. Donc on ne sait pas c'est un peu comme Moïse, on ne sait pas non plus quel nom Théophore. Donc il apparaît ici pour la première fois. Donc certainement, il fait partie un peu de l'aristocratie de Jérusalem que David a intégré en fait dans son équipe quand il est arrivé à Jérusalem. Donc d'abord, Nathan confirme David dans sa volonté de construire un temple, mais ensuite. La nuit, souvent c'est la nuit que la parole divine arrive, la nuit la parole de Yahvé arriva auprès de Nathan en ces termes, « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle Yahvé, c'est toi qui me bâtiras une maison pour que je m'installe, car je ne me suis pas installé dans une maison depuis le jour où je fais monter d'Égypte les fils d'Israël jusqu'à ce jour, je cheminais sous une tente au Hel et à l'abri d'une demeure de Mishkan. » Donc là, c'est quoi l'idée ? Il dit, mais moi je suis une divinité nomade. Je n'ai pas besoin qu'on me construise un temple. Ça, c'est déjà assez peu commun si on compare avec le Proche-Orient ancien. Hein? Donc là, de dire, moi je n'ai jamais eu besoin qu'on me construise une maison fixe. Hein? Et puis ça continue. Donc pendant tout le temps, j'ai cheminé avec tous les fils d'Israël et j'ai adressé un seul mot à un des tribus ou à un des juges, comme disent les chroniques, c'est plus logique, que j'avais établi pour faire paître Israël mon peuple, pour dire pourquoi m'avez-vous pas bâti de maison de cèdre. Donc, c'est le rejet d'une maison. Donc au début, on a l'impression qu'il n'y aura pas de maison. Et ensuite, donc c'est toujours le discours que le prophète est censé transmettre à David. « Tu parleras ainsi à mon serviteur David, ainsi parle Yahvé Sévaoth. C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau. » Donc ça, vous vous souvenez, David qui venait paître son troupeau. Donc ça fait allusion en effet à la vocation de David. Hein. Et en fait, maintenant, ce qui est un peu le coup de tonnerre, donc « Je t'ai accordé le repos face à tes ennemis. » Donc on retrouve l'idée du repos. David dit maintenant on a du repos et on passe tout un coup, et ça c'est intéressant parce qu'il n'y avait pas là la première personne, et tout un coup il passe à la troisième personne, hein? Et c'est surtout ce qui est important, et Yahvé t'annonce que c'est Yahvé qui te fera une maison. Toi tu me veux faire une maison? Non, c'est moi qui te ferai une maison. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est quoi la maison que Yahvé fera à David? C'est pas le palais, c'est la dynastie. Parce que les dynasties sont appelées, bah, je vous ai parlé au premier cours de cette inscription Maison de David, hein, qui signifie en fait la dynastie de David. On a dans les textes assyriens aussi la Bit Rumri, donc la maison de Omri, pour désigner les dynasties du Nord. Hein. Et donc, en fait, vous vous souvenez, Jan Rukel vous l'a déjà dit d'une certaine manière, là, on va dire qu'à la place d'un temple, ce qui est le plus important, c'est la dynastie. Et c'est Yahvé, en fait, qui promet cette dynastie à David. Donc, c'est Yahvé qui te fera une maison. Alors, si vous prenez la Septante, dit que tu lui feras une maison. Ça change totalement. Alors, certains pensent que c'est le texte ancien, mais ça ne fait pas tellement de sens dans la suite. Et l'idée de la Septante, que tu lui feras une maison, C'est déjà un peu dans le sens des chroniques, en fait, que voilà, David va devenir, en fait, en découvrant l'emplacement du temple, en mettant l'arche à Jérusalem, le proto-constructeur du temple, d'une certaine manière. Donc, je pense, le texte massorétique, il faut le garder. Yahvé annonce qu'il te fera une maison, c'est-à-dire, en fait, une dynastie. Mais, et ça, c'est de nouveau un changement maintenant. Après, donc une fois que la dynastie est établie, je lèverai ta descendance après toi, et celui qui sera issu de toi-même, et je l'établirai fermement sa royauté, c'est lui qui bâtira une maison pour mon nom. Hein? Et en fait, il peut savoir, après, il peut arriver plein de choses pas agréables, mais ma fidélité ne s'écarte point de lui, comme je l'ai écarté de Saül, que j'ai écarté devant toi. Donc ça fait allusion à quoi ? Ça fait évidemment allusion à Salomon, hein, qui ne fait pas toujours tout ce qu'il doit faire. Et même si le royaume va se scinder, l'idée de ce texte, c'est que la dynastie va rester. La dynastie va rester et la dynastie, ta maison et ta royauté seront à jamais stables, ton trône à jamais, ad olam, pour toujours affirmé. Donc ça, c'est un texte évidemment central dans l'idéologie des auteurs qu'on peut appeler deutéronomistes. À cette idée, il y a une sorte de d'annonce d'une continuité de la dynastie. Le temple est important, mais ce qui est plus important, c'est la dynastie. C'est ce qu'avait dit aussi Yann Ruckel, qui a dit, en fait, l'important, c'est en effet de dire, même s'il n'y a pas de temple, ou même si le temple est contrôlé par les prêtres, le deuxième temple, ce qui est important, c'est en effet affirmer que la dynastie davidique, elle va perdurer. Et on n'a pas besoin forcément pour ça du temple. Vient après, mais ça je ne vais pas aller dans le détail, vient une prière de David qui remercie Dieu, et ça c'est un texte qui est déjà monothéiste, qui correspond beaucoup, je vous ai mis, vous pouvez le regarder ensuite, les correspondances avec Deutéronome 4, où il n'y a que Dieu qui est Dieu et puis il y a point d'autre, qui est venir se chercher un peuple en Égypte, etc. Donc là, nous avons déjà peut-être la dernière lecture de ce texte. Donc, pour résumer, il y a peut-être trois étapes dans ce texte. Un premier texte à l'époque de Josias, qui annonce que la dynastie elle va durer pour toujours. Une relecture après la destruction du temple, encore deutéronomiste, qui insiste sur la dissociation de l'existence d'un temple, tout en acceptant que Yahvé a fait construire le temple à Salomon, et la promesse d'une dynastie éternelle et des révisions plus tardives intégrant des thèmes et textes sacerdotaux avec un discours monothéiste notamment. Et donc, le but de cette insertion a été de conclure l'histoire de l'ascension de David au pouvoir. Les chapitres suivants, on va le voir très rapidement et ensuite on regardera la fin la semaine prochaine, donc vont raconter la stabilisation de son royaume. En 2 Samuel 8, on fait conquérir à David en fait les Philistins, les Moabites, différents royaums araméens, Édom de nouveau. Et comme je vous ai dit, Édom c'est anachronique puisque ça n'existe pas à l'époque de David. Et puis on a une liste de hauts fonctionnaires de David dont certains vont jouer un rôle important. Joab, son général. Il y a un chancelier, Yehoshaphat, Tzadok et Ahimelech, deux prêtres qui vont être aussi un peu en compétition. Il y a un secrétaire et Benayahu, un autre chef militaire. Nathan n'est pas mentionné dans cette liste, donc ce qui montre peut-être qu'il est venu après coup. Et ensuite, en 2 Samuel 9, on va raconter comment David va accueillir Mephibosheth. Là aussi, Mephibosheth, c'est un autre Saoulide. C'est un des fils apparemment de Jonathan, qui est handicapé, hein, et dont le nom est Meribbaal, et qui, en fait, ça aussi pour montrer un peu la magnanimité de David, il lui restitue les biens de Saül et le fait siéger à sa table. Hein, vous vous souvenez peut-être que le dernier roi judéen, va siéger à la table du roi babylonien. Ça, c'est tout à la fin de 2 rois 25. Et ici, on a quelque chose autour de David par rapport au dernier descendant de Saül. Et ensuite, on a en 2 Samuel 10, à l'occasion du... Je ne sais pas si vous vous souvenez de Nahash, le roi des Ammonites. Ça vous dit quelque chose? C'est Saül qui avait battu Nahash, le roi des Ammonites. Donc apparemment, il est vivant, donc Saül n'a pas tué. Donc David envoie une délégation vers son fils qui humilie cette délégation en leur coupant les barbes et les vêtements. Et donc ça met en effet David dans une immense colère. Donc il va avoir tout un récit de guerre contre les Ammonites qui se sont alliés avec les Araméens. Et c'est dans ce contexte-là que va se situer l'histoire de David et Bathsheba. Ah oui. Bon, on n'aura pas le temps de faire ça aujourd'hui, mais je vous donne un petit teaser déjà. Donc c'est évidemment l'histoire où tout va bousculer, mais où aussi Salomon entre en fait en action. Donc l'action va venir au monde d'une certaine manière. Hein. Et en fait, ce que je vous montre juste maintenant, c'est que le début du chapitre 11, on va raconter cette histoire quand même assez sordide. Parce que David, il est à la fois violeur, il est meurtrier, donc non déplaise aux théologiens, je pense qu'on ne peut pas parler autrement que de viol. C'est inséré en fait dans une histoire de la guerre contre les Ammonites. Donc au début, ça commence au retour de l'année, au temps où les rois sortent pour la guerre. David envoya Joab avec tous ses serviteurs, tout Israël. Ils massacrèrent les fils d'Ammon et mirent le siège devant Rabba. Donc c'est Amman aujourd'hui, mais David demeurait à Jérusalem. Et cette histoire que David demeure à Jérusalem introduit en effet l'histoire de David et Bathsheba. La suite normale de ce premier verset, c'était en 2:12-26, où après Joab, David reste à Jérusalem, Joab attaque les Ammonites, comme vous pouvez le voir. Hein. Et puis il dit à David, est-ce que c'est moi qui dois remporter la victoire? Est-ce que tu veux venir? Hein. Et David vient, et puis il remporte la victoire, et récupère la couronne immense du roi Ammonite, etc. Donc à l'origine, il y avait une histoire de guerre de David et Joab contre les Ammonites, dans laquelle on a finalement inséré l'histoire de David et Bathsheba. Donc une histoire en effet qui est assez curieuse, qui en effet montre comment le roi se prend tous les droits. Hein. Et puis je vous montrerai ça la semaine prochaine. Il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser autour de cette question, de ce récit. Alors il y a plusieurs hypothèses, mais vous allez voir, il y a des gens qui disent en fait Salomon n'était pas du tout le fils de David. C'est le fils de Uri, en fait. On a raconté toute l'histoire seulement pour faire croire le contraire. C'est une hypothèse qui n'est pas totalement infondée, mais on verra ça la semaine prochaine.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr. Les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.